Pourquoi parler d'une quête ? Eh bien parce que ce n'est pas si simple que ça de définir ce qu'est l'impact pour une entreprise aujourd'hui. C'est tellement pas si simple qu'il faut mener certaines investigations poussées pour déterminer quels sont les impacts positifs que l'on peut attribuer à telle ou telle entreprise.
Et c'est en investissant dans des entreprises qui mitigent bien leurs impacts négatifs inhérents à leur secteur, tout en tentant de générer un impact positif, que l'on va réussir à répondre aux grands défis de notre monde avec notamment celui qu'il devient urgent d'endiguer, celui du changement climatique. Grâce à nos invités, que nous avons sélectionnés parce qu'ils incarnent cette volonté de changement profond, nous allons tenter de mener l'enquête pour être certains que chaque euro investi génère dorénavant un impact positif.
Je suis Marc Vamser et je vous donnerai le point de vue du banquier investisseur.
Je suis Paul Allard et je vous donnerai le point de vue de l'entrepreneur.
Bonjour à tous, on a la chance aujourd'hui de recevoir Thibaut Lamarque. Donc, bonjour Thibaut.
Bonjour.
Dans cet épisode, on aura l'opportunité de parler avec toi de bouteilles d'eau en plastique contre lesquelles tu luttes depuis maintenant plus de 10 ans. Et moi, en tant que banquier féru d'innovation et d'impact, j'ai aussi hâte d'évoquer avec toi comment tu as réussi à financer le modèle de ton entreprise qui est Castalie, mais aussi de ta vision de la finance d'impact en tant qu'entrepreneur, mais aussi business angel et podcaster à impact. Avant tout cela, laisse-moi rapidement te présenter. Donc, tu as commencé ta carrière chez Veolia, puis tu as rejoint ta première entreprise à impact en tant que directeur administratif et financier qui est Alter Eco, spécialisée dans la distribution de produits bio et équitables. Et en 2010, tu crées donc Castalie, dont tu es président et fondateur. Et l'objet, je cite, c'est de mettre fin à la folie des bouteilles en plastique, véritable fléau de notre époque. J'espère avoir bien repris ta citation. Tu as développé tout pour ça, tu as développé.
Je signe.
Tu signes. Donc, tu as développé pour ça des fontaines et un ensemble de services pour donner un accès à une eau de qualité bonne pour tout le monde et pour la planète. Parallèlement, tu es devenu investisseur à impact et tu as aussi récemment créé ton podcast qui s'appelle La Relève.
Tout à fait.
Ok, super. Alors, ma première question, et c'est une question qu'on pose régulièrement à nos invités, c'est à quel moment, au cours de ta carrière, tu as pris conscience que tu devais travailler, puis entreprendre, tout en ayant un impact positif ?
Dès le début, parce que j'ai fait un mémoire de fin d'études sur l'accès à l'eau dans les pays en voie de développement. Je me suis servi de ce mémoire pour me faire embaucher par Veolia Environnement. Pendant presque 6 ans, j'ai fait 2 ans en Australie pour une filiale de Veolia dans la partie développement. Donc, c'était des acquisitions de sociétés ou des appels d'offres pour des contrats de délégation de services publics. Mais c'était des services à l'environnement. Et puis ensuite, j'ai travaillé 3 ans et demi au siège de Veolia, là, un peu partout. Donc, ça pouvait être... un coup à Tokyo et un coup à Vesoul, mais en tout cas, j'allais auditer, faire des audits post-acquisition de Veolia Environnement, des acquisitions de Veolia Environnement. Alter Eco, bon, moi, au bout de quelques années chez Veolia, c'était un grand groupe et j'avais envie de faire moins de finances et j'avais envie d'être plus proche du terrain. Et ben, donc, j'ai pris un poste qui était plus proche du terrain. Mais pour devenir directeur financier, donc je n'ai pas fait moins de finances. Et donc, je suis devenu DAF d'Alter Eco, qui a été lancé dans les années 2000 par Tristan Lecomte, qui a été la première PME à vraiment évangéliser l'équitable et le bio dans les années 2000. Et ça, je l'ai vraiment de la même manière fait parce que je pense depuis très longtemps qu'il y a une urgence à mieux consommer. Voilà. Et puis après, je pense que Alter Eco m'a permis de voir j'avais pu travailler dans un grand groupe, que la moquette épaisse de l'avenue Kléber me manquait pas, et que l'open space de Alter Eco place de la Bastille, ça m'allait bien aussi, et que finalement je pouvais entreprendre, j'étais prêt pour entreprendre.
Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de Castalie ? Comment tu as eu l'idée ? Comment ça a démarré ?
J'ai donc quand je travaillais chez Veolia, j'ai visité pas mal de décharges et ce qu'on voit de décharges au centre de tri d'incinérateurs. Donc ça, c'est dans la filiale propreté. Et ce qu'on voit dans cette filiale, c'est que c'est l'omniprésence du plastique. J'ai vu des décharges dans des spots, mais absolument magnifiques, en bord de mer. Tout est beau, sauf cette décharge. Et qu'est-ce qui reste finalement quand les poubelles sont compostées, on va dire, ben, il reste tout ce qui ne se dégrade pas, et c'est principalement dans notre consommation du quotidien, c'est principalement le plastique. Ça, c'est quelque chose que j'avais bien en tête, et moi, je ne bois que de l'eau pétillante. Quand je cherchais une idée pour entreprendre, et j'avais découvert SodaStream qui a été racheté par Pepsi il y a quelques années. SodaStream, ils ont réinventé le siphon qui existait dans les années 50 en France, où il y avait les Auvergnats qui faisaient la tournée des cafés pour amener de l'eau gazéifiée par des siphons. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux adapter, réinventer SodaStream en amenant un certain nombre de services supplémentaires, de la filtration, du rafraîchissement, et puis une bulle un peu différente. Donc voilà, c'est en m'inspirant de SodaStream, et puis en ayant finalement assez mal vu que la poubelle jaune, c'est une très bonne chose, mais que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas.
Donc on va parler du moment de la genèse jusqu'à aujourd'hui, mais peut-être pour bien comprendre de quoi on parle, est-ce que tu peux nous dire en quelques chiffres ce qu'est Castalli aujourd'hui ?
Alors Castalli, c'est 12 ans, une centaine de personnes, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, 225 millions de bouteilles évitées.
Au moins c'est clair et précis.
Oui, ça, on aime bien ce genre de données très claires qui dit tout, effectivement. Mais ce qui nous intéresse, c'est un peu, peut-être avant de tomber dans Castalli, quels sont les éléments qui t'ont inspiré ou tu as dit qu'il y avait une opportunité de marché au-delà de t'inspirer de SodaStream, mais chez Veolia et puis chez Alter Eco pour te lancer. Et ensuite, est-ce que le plan initial de chez Castalli, le plan d'affaires initial, était celui qui est aujourd'hui celui qui fonctionne? Ça, c'est double question.
Quand j'ai fait de l'audit chez Veolia, j'ai fait deux métiers un peu opposés chez Veolia. J'ai fait 2 ans de M&A et puis après 3 ans et demi d'audit où j'allais auditer les acquisitions de mes petits copains. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y avait jamais un business plan qui était respecté. La plupart du temps, c'était dégradé. Je l'ai vu une fois, un business plan qui était supérieur au BP d'acquisition. Donc, à ta question de est-ce que j'imaginais Castalli comme ça, j'ai envie de te dire non. Comment je l'imaginais? Beaucoup plus gros. Je pensais que la société serait plus développée. J'ai appris avec beaucoup de modestie que finalement, tout est un peu plus lent que ce qu'on imagine au début. Et ce qui permet d'ailleurs d'avoir des fondations solides, mais voilà, c'est assez marrant. Par contre, c'est que je suis retombé pour les 10 ans de Castalli. On a fait une fête au bureau et j'ai fouillé dans mes vieux papiers. Et à l'époque, j'utilisais pas encore Notes de mon iPhone. J'utilisais des papiers des carnets d'auditeurs. Et donc, j'avais un bloc-notes à petits carreaux et sur lequel j'avais drafté les premiers jours quand j'ai eu l'idée. J'avais drafté ce que je voulais faire de Castalli. Donc, où étaient les marchés potentiels? Quel était le type de marché, le chiffre d'affaires du marché, et puis après ce que moi je pouvais prendre sur ce marché. Et c'était assez marrant, donc je l'ai lu devant les collaborateurs en disant je leur ai montré ce qu'était Castalli dans ma tête il y a 12 ans. Et en fait, on s'y retrouve pas mal, c'est très différent, mais on s'y retrouve pas mal. C'est que aujourd'hui, on a un marché qui se porte bien, qui est un marché de niche, qui est l'hôtellerie et la restauration. On est présent à la fois dans les restaurants de quartier, mais dans les 3 étoiles Michelin, dans ce qu'on appelle les restaurateurs attentionnés, qui font attention à leurs clients et attention à la planète. Et ça, dès le début, j'avais vu l'opportunité. Alors, dans les restos, on ne vient pas remplacer du plastique, mais on vient remplacer des bouteilles en verre à usage unique. On vient remplacer des bouteilles qui font des milliers de kilomètres, parfois en camion, quand c'est entre l'Italie et la France, par exemple. Et donc, voilà. Deuxième marché que j'avais identifié, c'était le marché de l'entreprise. Ça, je m'étais dit qu'il y avait à la fois beaucoup de bouteilles, mais aussi beaucoup de fontaines chinoises. Donc, ces petites fontaines noires que tout le monde connaît, que vous voyez à côté de l'ascenseur ou à côté des toilettes, et qui ne règlent pas le problème de la bouteille. Moi, mon idée dès le départ, c'était de dire, voilà, je fais pas des fontaines, je fais un système, une solution qui permet à mes clients de se passer de la bouteille d'eau. Mais bien évidemment, aussi des petites fontaines chinoises. Troisième marché, c'est le marché du particulier. Et ça, peut-être c'est le seul qu'on n'a pas vraiment adressé franchement. Donc, on a quelques particuliers installés, on va en avoir une quarantaine. Mais c'est des appels entrants, en fait, c'est des gens qui veulent avoir Castalli à la maison. C'est du CSP++. Donc, c'est une cible limitée, mais ça fait partie de la mission de pouvoir les servir. C'est d'autres canaux d'acquisition, donc c'est pour ça qu'on n'a jamais investi. Et puis le dernier marché, qui est un marché auquel je crois beaucoup, pour lequel on a fait un peu de business, mais qui a beaucoup d'impact, mais qui nous a pas rapporté beaucoup d'argent, c'est les fontaines publiques, où là j'avais proposé à la ville de Paris des fontaines publiques pétillantes. Ils nous en ont acheté une vingtaine, et aujourd'hui ils pouvaient boire dans les rues de Paris, dans une vingtaine d'endroits, de l'eau pétillante. Ça s'appelle pas la Castalli, ça s'appelle la pétillante eau de Paris, mais derrière c'est notre matériel et notre technologie. Voilà les quatre marchés que j'avais identifiés. Et donc, celui qui a marché le plus vite, c'est la restauration. Les bureaux, ça a été un énorme échec parce qu'on coûtait 10 fois le prix des fontaines chinoises, et personne ne comprenait qu'il fallait englober en fait le sujet de la bouteille et de la fontaine chinoise. On nous comparait tout de suite avec ces fontaines chinoises. Les particuliers, c'était beaucoup trop cher, et donc il n'y avait pas de quoi faire une boîte avec quelques CSP++ qui pouvaient se l'offrir. Et les fontaines publiques, ben, c'est des temps de transformation qui sont extrêmement longs, et donc finalement c'est difficile aussi de faire on a des concurrents qui se sont lancés et qui sont restés monomaniaques de ce marché et qui sont plantés. Donc, on a fait le bon choix, c'était, moi j'appelle ça jeter des hameçons avec des appâts, et tu regardes là où ça mord, et puis après petit à petit tu remontes là où ça mord, et puis tu lâches les lignes qui ramènent rien, et donc on a vraiment mis le paquet sur la restauration dans les années 2010, au début des années 2010. C'était le renouveau de la cuisine de chef, de la bistronomie. C'est la cuisine de chef dans des établissements. On passait d'une restauration parisienne où c'était du réchauffé qui était vendu par des industriels à une restauration où des chefs entrepreneurs qui étaient chez eux dans leur bistrot pouvaient choisir ce qu'ils faisaient, qu'ils cuisinaient. Et puis, ils commercialisaient, ils vendaient ce qu'ils voulaient en termes de boissons. Ils pouvaient vendre le café qu'ils voulaient, l'eau qu'ils voulaient, etc. Et ça, nous, finalement, ça nous a vraiment porté pendant les premières années.
Et au début, une question par rapport à lorsque, c'est toujours ce qui est fascinant, lorsqu'on fait un dessin et on planifie, on a des plans, ce qu'on appelle en anglais un blueprint. Et lorsqu'on réalise qu'est-ce qui fonctionne et comment ça fonctionne. Alors, qui était au début tes premiers investisseurs, et puis comment tu as convaincu tes premiers partenaires, et comment tu as vécu les premiers échecs et les premières réussites qui font que, c'est dans cette direction-là qu'il faut mettre tous nos efforts.
Alors, d'abord, j'ai mis toutes mes économies, j'ai mis 50 000 euros. Et puis assez vite, j'ai eu du love money ou des premiers clients. J'ai fait un tour de table, donc 2 ans après, en 2014. Donc j'avais quand même déjà quelques dizaines de clients. Donc c'était pas une proof de, c'était pas le POC était pas terminé, mais globalement il y avait quand même ça frétillait, on va dire, sur la restauration, sur l'hôtellerie.
POC pour proof of concept.
Oui, ouais. Exactement. J'ai levé en gros 600 000 euros avec du love money et mes premiers clients, dont un petit groupe qui, à l'époque, il a changé de nom, mais il s'appelait Cogepa, c'est un family office. Et je me souviens toujours parce que Daniel et Benoît Duval-Fleury m'ont fait confiance. C'était donc les deux patrons du fonds, ils avaient trois hôtels qui étaient clients Castalli. Et qui ont investi dans le tour. Donc, ça fait plaisir quand vous avez des clients qui investissent dans votre produit. Pour l'entre... En tout cas, je parle en tant qu'entrepreneur, hein, au-delà de... de...
Ouais.
Donc voilà, et puis et ça, ça m'a permis de franchir une première étape et d'aller tester un autre marché qui était le marché de l'entreprise où j'avais, alors d'abord on avait pignon sur rue, c'était pas comme en 2011 où quand j'allais voir les entreprises et les grands groupes ils comprenaient pas ce que je voulais faire. Là maintenant j'avais des bouteilles dans tout Paris, enfin dans toute la France, dans des bons restaurants. Et puis, et donc là, c'est le, pour le coup, c'est le groupe LVMH qui nous a dit banco pour une cinquantaine de fontaines dans leur siège. Et ce qui est sûr, c'est qu'après, une fois que vous avez un client comme celui-là, ben, ça attire les autres. Enfin, et donc,
c'est clair.
Donc, voilà, en 2015, j'ai relevé de l'argent là avec trois fonds. Qui m'a permis de faire rentrer de rentrer des commerciaux, de financer mes capex. Et là, on a levé 2 millions d'euros. Ça paraît tout petit maintenant, quand 600 000 euros, 2 millions d'euros. Quand je vois les montants en précis, les mecs lèvent 10 millions, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là?
Ça, c'était il y a 3 mois, quoi, avant la SVB.
Oui, ça a un peu ralenti même avant. Mais, et donc, tu as, dans l'equity story, ensuite, il y a eu d'autres levées que tu as faites ou la dernière, c'est 2 millions
d'euros? Non, en 2020.
Ouais.
Donc, j'ai fait rentrer 3 fonds. En 2020, j'ai fait sortir ces 3 fonds, en fait. J'en avais un qui devait, pour des raisons statutaires, changer. Enfin, bref, tourner. J'en avais deux qui voulaient rester. C'est compliqué d'en faire sortir un et de garder les deux autres, même si on avait d'excellentes relations. Et donc, ce que j'ai préféré faire, c'est que j'en ai trouvé 4 nouveaux qui sont rentrés et qui ont sorti les trois historiques. Et voilà, l'idée, là, c'était de renforcer les fonds propres et de continuer à développer à la fois la tech, les fontaines et puis toute la partie service.
Et une question sur ces fonds, à la fois les 3 premiers et les 4 nouveaux, est-ce que c'était des fonds qui étaient des fonds définis comme à impact ou c'était des fonds tech généralistes? Est-ce qu'il y avait une spécificité dans ces fonds ou c'est les 7 fonds assez différents?
En tout cas, en 2015, les fonds impact, ça n'existait pas vraiment. Donc sur les 3 fonds, j'en avais pris un qui était un fonds impact, qui était un des premiers fonds de la place. Qui s'appelle Inco et qui et je pense qu'était vraiment un des précurseurs derrière. En tout, Inco avait plusieurs fonds, mais derrière celui qui était rentré chez Castalli, c'était le Aviva, l'assureur qui était l'investisseur. Et j'avais deux autres investisseurs, un qui était très actif et qui est toujours très actif dans l'hôtellerie et la restauration, qui s'appelle Extend AM, qui était très investi chez mes clients. Et ça a été une belle histoire parce que il finance tous les nouveaux hôtels ou une partie significative des nouveaux hôtels. Et donc, pour moi, ça me permettait d'avoir un bon radar sur le marché. Et puis, un petit fonds d'entrepreneurs qui s'appelle LER Invest, les entrepreneurs réunis, qui était... lancé par Martin Génaud, qui était un des cofondateurs de Photobox, PhotoWays, et qui avait lancé avec, je sais pas, 30 ou 40 copains entrepreneurs de la tech, un petit fonds entrepreneur. Ça, c'était sur 2015, mais à l'époque, je me souviens qu'il n'y avait pas de fonds d'impact. Donc, j'avais rencontré donc Citizen, Laurence Meignery, j'avais rencontré aussi Alter Equity, de Fanny Picard, mais il n'y avait pas de... En fait, à part ces 3 fonds, il n'y avait pas de fonds d'impact. Là, aujourd'hui, sur les 4 fonds, donc on va dire qu'entre 2015 et 2020, ça a été la fête des fonds d'impact. Donc là, aujourd'hui, il y en a une ribambelle. Et donc là, toujours dans l'idée de faire rentrer des fonds d'impact, en tout cas d'avoir une partie des fonds d'impact. Donc là, j'ai fait rentrer un fonds alors, qui se dit de grosse, qui s'appelle Ring Capital, qui était le lead, mais qui aujourd'hui tourne tous ses fonds vers l'impact. Donc, à l'époque, il était déjà en train de
Une des choses qui m'interpelle
est Raise Impact.
Comment est-ce que tu intègres dans ton ADN, donc
Amundi dans ta gouvernance,
cette mission qui est
le fonds impact d'Amundi,
qui est à la base de ton projet? Et comment est-ce que tu vas la faire vivre
industriel, et surtout un champion du Made in France, mais pas que, c'est aussi un champion du Made in China, donc c'est ça qui est magique.
Ils sont très forts. Comment est-ce que tu t'assures c'est un vrai groupe industriel familial, c'est le groupe Seb, les bonnes intentions, parce que on sait bien que les bonnes intentions, aussitôt qu'il y a une crise, disparaissent. Comment est-ce que tu t'assures que cette mission d'impact que tu as chez toi se perpétue?
Alors, bon, la loi a été votée. Donc, on a une loi sur les retraites qui a été votée en France. Et donc, là je viens de prendre 2 ans. Donc, j'ai encore un peu de temps avant de prendre ma retraite. Mais ce qui est sûr, donc pour répondre à ta question, on a un agrément ESUS. Donc, on est entreprise solidaire d'utilité sociale, et cet agrément ESUS, c'est un agrément d'État qui nous oblige, bon, je ne sais pas si je me sens vraiment obligé, mais en tout cas c'est statutaire, à avoir un comité des parties prenantes où on a des représentants des parties prenantes, donc ça va des collaborateurs, ça va de personnalités extérieures reconnues pour leur engagement, qui on se retrouve 2 fois par an pour nos comités, notre comité des parties prenantes. Donc ça, aujourd'hui, on va dire que c'est quelque... Alors, je ne dirais pas que c'est un garde-fou, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est là pour nous animer, nous challenger. Et après, sur la vie après le fondateur dans une boîte... Nous, on a la chance d'être purpose native. Ça veut dire que même si j'étais un affreux capitaliste et que je voulais faire les choses beaucoup plus mal, finalement, on viendrait quand même éviter de la bouteille d'eau en plastique, on viendrait quand même éviter du carbone. Castalli, c'est 90% d'impact en moins par rapport à une bouteille de plastique. Donc, on est bon pour la société. On n'est pas obligé... Là, aujourd'hui, on assemble 100% de la partie filtration dans un ESAT, donc un établissement qui emploie des travailleurs en situation de handicap pour assembler notre partie filtration. Ça, on n'est pas obligé de le... On serait pas obligé de le faire. On ne serait pas obligé d'éco-concevoir les fontaines. On ne serait pas obligé d'avoir un programme d'accès à l'eau en Éthiopie où à chaque fois qu'on signe une fontaine... Marc, tu es un de mes clients, mais donc sache que en parallèle du contrat, la fontaine donne accès à l'eau sur un programme en Éthiopie à Adama pour une famille de 4 personnes. Et ça, c'est pour tous nos clients. Ça, on serait pas obligé de le faire. Mais globalement, par rapport à plein de boîtes, plein d'entrepreneurs, j'ai la chance d'être purpose native et donc d'avoir ça dans l'ADN. Ce qui est sûr, c'est que on va dire que tant que je suis là. Et a priori, il n'y a pas de raison que ça change. J'ai essayé d'aller un peu plus loin que juste purpose native.
Et ce qui mène à ma prochaine question, c'est pour réellement créer un changement systémique, il faut qu'il y ait de la rigueur dans ce qu'on appelle la mesure, le management des outcomes, pas seulement des efforts, mais des résultats, et qui cette mesure, un peu comme Patagonia l'a initié il y a plus de 25 ans, soit comparable et soit publiée. Donc, comment est-ce que tu, comme jeune entreprise, maintenant moins jeune, mais comme entreprise, comment est-ce que tu appréhendes la mesure et le management de cet impact, c'est-à-dire la diminution des impacts négatifs, c'est une chose, mais aussi comment est-ce que tu publies et tu communiques sur des langages communs les impacts positifs que tu crées.
Donc ça, c'est un très bon point. Et moi, je dis souvent, pas de mesure, pas d'impact. Donc, dès 2010...
On sera d'accord là-dessus.
Dès 2017, on a réalisé une première analyse de cycle de vie produit de Castalli, qui a montré qu'on avait 90% d'impact carbone en moins. Je ne parle pas des impacts plastiques, qui sont quasiment nuls. Ça, c'était le rapport est sorti en 2018. Et puis, on a communiqué dessus. On a refait un rapport en 2020, enfin, une analyse de cycle de vie produit en 2022, avec un gros cabinet là, avec Quantis, parce que on avait été pas mal challengé par des gros producteurs de bouteilles d'eau en plastique qui nous disaient non mais attendez, votre résultat il date de 2018, depuis on a fait plein de progrès et le plastique c'est génial maintenant, on met du plastique recyclé dedans et ça change tout, l'impact carbone n'est plus le même, vous pouvez pas dire ça. On a été d'ailleurs attaqué devant l'ARPP, l'autorité de régulation de la publicité. Ça tombait bien, si tu veux, qu'on ait lancé ce deuxième ACV, là, qui était beaucoup plus robuste. Hein, ça s'appelle, c'est une analyse de cycle de vie produit ISO, où on a fait intervenir des experts internationaux, donc l'experte de l'Union européenne des ACV, l'expert de chez Veolia Environnement des ACV et l'expert de chez Citeo des ACV. Donc Citeo, c'est l'éco-emballage, c'est le gestionnaire du déchet final des bouteilles en plastique sur de l'eau ou du soda. Veolia, c'est le plus gros producteur d'eau potable du monde et puis l'Union européenne. Donc c'est trois experts en tout cas qui étaient incontestables et qui avec Quantis, en fait, ont challengé Quantis et ont challengé les résultats. Et aujourd'hui, ce qu'on a sorti l'année dernière, en 2022, donc ça a confirmé déjà qu'on avait 90% d'impact en moins. Je ne vais pas parler des 15 autres critères de l'ACV, mais globalement, on peut dire que par rapport à une bouteille classique en plastique, on les étale sur tous les 16 critères. Mais voilà, aujourd'hui c'est la science qui l'a dit et donc on va pouvoir communiquer dessus. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on a fait une deuxième chose, c'est qu'on a fait un bilan carbone qui était pour moi moins important que l'ACV, parce que l'ACV, c'est le core business, c'est-à-dire que c'est ce qui fait Castalie. L'ACV, en fait, c'est l'impact qu'a notre produit Castalie. Le bilan carbone, je pense que c'est très utile, mais souvent, on le limite aux impacts des bureaux. On a fait un scope 3, donc scope 1, 2 et 3. Ce qu'il faut retenir de ce bilan carbone, c'est qu'au-delà du bilan carbone, c'est inscrit dans un programme ACT pas à pas. Et ACT, c'est Assessing Low Carbon Transition. Donc, il y a une partie qui est subventionnée par l'ADEME. On l'a fait avec d'autres boîtes, comme le Slip français ou Insect. Et là, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour inscrire Castalie dans les accords de Paris. Donc, ça peut paraître superflu, mais pas du tout, puisque c'est le seul accord sur le climat qui existe aujourd'hui. Et donc, ça permet de finalement inscrire Castalie dans le seul accord climatique aujourd'hui. Donc, pour reprendre, donc on avait ACV, puis bilan carbone et un plan climat.
Non, ce qui est superbe pour une boîte de votre taille. Évidemment, il y a est-ce que vous regardez aussi de faire ce qu'on appelle un bilan d'impact global relatif au langage commun, qui est aujourd'hui le langage qui est utilisé un peu par tous, qui est celui des objectifs du développement durable de l'ONU, qui est le langage qui commence à être celui utilisé par toutes les parties prenantes. Est-ce que ça, c'est une chose qui sera une des étapes vers laquelle vous allez aller?
Écoute, pour le moment, je ne sais pas te répondre. Les ODD sur lesquels on est actif, il y a l'ODD 6, c'est eau et assainissement. Il y a l'ODD 12, c'est économie circulaire. Et l'ODD 13, c'est lutte contre le réchauffement climatique. Après, c'est sûr que toutes les boîtes interviennent un petit peu sur chacun des ODD, mais je pense que c'est les trois où on est le plus impactant. Sur le fait de mesurer, je sais pas te répondre en fait. En tout cas, je suis ravi d'avoir plus d'informations.
Mm-hmm. Non, tout à fait. Non, tout à fait. Non, c'est dans les faits, dans les faits un peu. Votre effet, comme tu as bien répondu, l'ADN même du produit et du modèle d'affaires fait en sorte que vous générez 90 ou 95% de votre produit génère des impacts positifs. Mais en plus, ce que vous avez mis en place, c'est des aspects, ce qu'on appelle de l'additionnalité en termes d'impact positif. C'est que vous avez aussi utilisé des emplois, vous avez créé des emplois pour des personnes en fragilité. Donc, ça aussi, ça pourrait s'additionner dans un bilan d'impact qui est global, quoi. Donc, vous avez...
C'est pareil pour notre programme en Éthiopie où c'est quand même des montants qui sont importants. L'année dernière, c'était 70 000 euros. Et là, cette année, ça va être plus. Donc, oui, bah ça, on serait ravis de le faire.
Alors, peut-être une question sur l'univers de l'investissement impact, parce que là, on a ton histoire décrit l'évolution qu'il y a eu sur les fonds d'impact, puisqu'en effet, de ce que tu disais, c'est qu'en 2015, ça n'existait pas, enfin, très peu, il y avait quelques historiques. En 2020, il y a des beaucoup plus gros fonds et des fonds qui n'étaient pas impact et deviennent impact. Toi, parallèlement à ça, de ce que tu as commencé à investir personnellement aussi dans les entreprises impact, est-ce que comment tu vois l'investissement impact aujourd'hui et quelles seront les principales évolutions que tu as vues ces dernières années et que tu penses voir venir dans les prochaines années?
On investit dans l'impact et que les gens se disent je vais pouvoir gagner de l'argent dans l'impact. Ensuite, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une multitude là de fonds et le sujet, c'est plus les dossiers, je pense, que l'argent disponible. Bon, c'est peut-être avant la crise, mais globalement, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fonds disponibles pour les bons dossiers. Bon, alors moi, déjà, je suis un tout petit investisseur. Hein, je mets des tickets entre 10 et 50 000 euros dans des boîtes parce que j'ai un coup de cœur pour le produit et pour les fondateurs. Sans doute que je suis un très mauvais investisseur parce que je ne le fais jamais de manière complètement froid. Et donc, je le fais avec le cœur, comme un entrepreneur. Donc je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure façon d'investir, mais en tout cas, moi, c'est celle qui me fait plaisir, celle qui m'anime, celle qui m'inspire pour Castalli. Et voilà. Donc, et après, sur les fonds impact, moi, je pense qu'il y a un sujet du TRI vendu. Alors, bon, là, avec les taux qui remontent, ce que je vais dire, ça peut peut-être être une... dépassé, mais quand il y avait des taux d'intérêt à 0%, je pense que d'attendre des fonds impact le même TRI que des fonds du digital, ça ne pouvait pas être du long terme. Pourquoi je dis ça? Je m'explique. C'est que je pense que, bien sûr, que sur certaines entreprises, sur certains marchés, à certains moments, il était possible pour une entreprise de prendre tout le marché, de faire des culbutes et d'avoir des TRI très importants. Mais je pense que globalement, ce qui s'est passé dans le digital, ne pourra pas fonctionner dans l'impact. C'est pas les mêmes marges, c'est pas les mêmes effets explosifs. Et je pense que c'est se tromper, se mettre un doigt dans l'œil. Il y a beaucoup de gens qui se le disent que on fera les mêmes TRI. Je dis pas là sur les 2-3 prochaines années, mais je pense que à long terme, globalement, il faudra revenir sur des TRI plus raisonnables.
Si j'entends ce que tu dis et pour lequel je suis absolument d'accord, c'est que les fonds impact doivent accepter que le rendement peut être aussi intéressant, mais dans le moyen et le long terme, pas dans le court terme. Parce qu'il y a ce qui est requis d'une entreprise impact, c'est cet investissement qui soit en CAPEX, en OPEX, dans tout ce qui est l'aspect d'impact positif à être généré. Est-ce que je traduis bien ta pensée?
Alors, ce qui est sûr, c'est que 5 ans, ça ne suffit pas pour faire une grosse boîte à impact. Et effectivement, il y a à la fois de l'OPEX, mais du CAPEX. Qui complexifie la lecture de la performance d'une entreprise. Je ne sais pas si c'est les fonds impact qu'il faut parler ou c'est les LPs. Moi, j'ai envie de dire plutôt LPs. C'est vous qui déléguez le sale boulot aux fonds d'impact. Donc, demandez-leur de faire des TRI moindres pour votre rendement. Et puis, finalement, les fonds d'impact s'adapteront à leur LPs.
Bon point. Très bon point.
Bonne transition sur la partie CAPEX. Tu as un business model qui est pas forcément évident, puisqu'en effet, tu loues, si je ne m'abuse, des machines qui coûtent cher à fabriquer et à livrer. Est-ce que tu as trouvé un moyen de te financer autre que les différentes levées dont tu as parlé?
Le financement de ces fontaines, Castalli, c'est l'histoire de ma vie depuis 12 ans. Effectivement, le fait de fabriquer des fontaines à Neuville-en-Ferrain, dans le Nord, à Ancône en Italie, et bientôt à côté de Malaga en Espagne, on ouvre une troisième ligne de prod là. Donc c'est pas nos usines, mais en tout cas, c'est des producteurs sur des plans spécifiques Castalli, avec notre électronique, notre design, notre techno en fait. Donc ça coûte cher à financer quand on l'installe chez le client, puisque on va louer la fontaine. Ça, comment est-ce qu'on fait? Effectivement, au début, j'ai fait payer des cautions à mes clients, ce qui me permettait de financer une partie du prix de la fontaine. Mais c'était pas possible de changer d'échelle avec ça. Ensuite, je les ai financés avec mes fonds propres, puis avec de la dette. Le sujet de la dette, c'est quand vous avez de la dette pour des fontaines, enfin, le banquier, il fait pas la différence entre de la dette pour des fontaines ou de la dette pour des OPEX. Il va vous rattraper sur vos fonds propres, les ratios dette-fonds propres, etc. Donc, vous faites de l'obligation convertible. Et puis, quand vous pouvez plus faire d'obligation convertible, vous faites de l'equity. Donc, ça a été pendant très longtemps. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à des produits de leasing où finalement la banque va devenir propriétaire de la fontaine et la relouer à notre client. Et ça, j'avoue que c'est pour nous, finalement, quand on fait du hardware qui coûte cher, c'est le meilleur modèle.
Okay. Écoute, on arrive à la fin de notre épisode. On a une question qu'on pose généralement à la fin, alors qu'il y a une question assez complexe, mais qui est toujours intéressante. Alors, l'idée, c'est de dire si tu avais une baguette magique ou en tout cas, quel serait l'élément principal que tu essaierais de modifier ou le challenge principal qui permettrait d'améliorer les choses et d'essayer de résoudre les défis actuels, qu'ils soient environnementaux et sociaux, sachant que tu en as déjà dit un qui est de demander aux LPs de rallonger leur horizon d'investissement et de diminuer un petit peu de fait leur TRI. Mais est-ce que tu as une autre idée?
Oui, puis qu'il soit évidemment pour juste assurer que ça soit complexe. On parle de changement systémique mondial, évidemment.
Alors, j'aurais pas la prétention d'avoir la baguette magique. Moi, je pense déjà que c'est se mettre dans l'action, ça permet de faire des choses. Et je crois beaucoup au colibri et à l'histoire du colibri. Donc, là, en 2023, il y a un énorme sujet en France, mais dans le monde, qui est enfin sur la scène publique, c'est le sujet de l'eau. On a vu la semaine dernière des scènes de guerre autour d'une méga bassine. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce que y a plein de choses à faire sur l'eau. Donc, moi, mon message, je vais peut-être l'adresser sur quelle gestion de l'eau qui est un bien commun en France et on peut imaginer dans le monde. Et puis, plus globalement, donc sur le réchauffement climatique, aujourd'hui, je pense que les scientifiques, on a un nouveau rapport du GIEC qui vient de sortir. Enfin, les scientifiques ont clairement expliqué les tenants et les aboutissants. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est du politique, se mettre d'accord sur un projet commun et le dérouler. Je pense que moi, je ne suis pas politique, je suis entrepreneur. Peut-être qu'un jour, je serai politique, mais aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de courage politique et de dérouler.
Super. Merci beaucoup, Thibaut, pour tout ce précieux échange.
Merci beaucoup, Thibaut. Et puis, encore une fois, félicitations. C'est encourageant. C'est génial de voir que dans tous les domaines, il est possible de joindre l'impact et puis la rentabilité avec patience et avec solidité.
Merci, Paul, Marc.
Paul, qu'as-tu pensé de notre échange avec Thibaut?
Eh bien, les trois points dont je me souviens et que je veux faire ressortir, c'est le premier, c'est encore une fois comment on doit et on devrait, et les fonds d'investissement d'impact devraient tenir compte d'un horizon d'investissement de rentabilité beaucoup plus long, dans le long terme. Parce qu'effectivement, on demande aux entreprises d'impact de non pas seulement d'investir dans un dispositif de production qui soit rentable, mais aussi dans un dispositif qui génère des impacts positifs et forcément que ça prend plus d'investissement. Et donc, la rentabilité, qui va être certes au rendez-vous, va être sur un temps un peu plus long. Donc, les fonds d'impact, on les invite à donc reconsidérer et de « walk the talk ». On doit donc supporter des entreprises d'impact avec un horizon un peu plus long. Deuxième point qui est fort intéressant et inspirant, c'est que Thibaut était un spécialiste d'un secteur très, très pointu. Et à partir de cette spécialisation-là, il a vu l'opportunité d'impact. Donc, ce que je me dis, c'est que Si on regarde tout notre système actuel, il y a des milliers, des centaines de milliers d'opportunités de créer des entreprises qui soient rentables pour améliorer et pour générer des impacts positifs. Le troisième point, évidemment, je reviens sur la notion de l'importance de la mesure de qualité. Effectivement, il s'est fait attaquer par les grandes entreprises assises dans le secteur par rapport à ses résultats, et il a pu se défendre et gagner grâce au fait que son système de mesure et du management d'impact était très rigoureux, et il a gagné face au lobby des joueurs en place. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Enquête d'impact.
J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. N'hésitez pas à le partager sur l'ensemble des réseaux sociaux et à nous laisser des commentaires ou des idées pour de futurs invités.
À bientôt.
À très bientôt.